Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Double Slash, un épisode de news. Nous sommes en avril 2026 et tu sais quoi Alex, le premier épisode c'était le 20 avril, le 1er avril 2020 et donc ça fait 6 ans déjà que le podcast existe.
Excellent, Double Slash, 6 ans, trop fort. C'est énorme. Je ne pensais pas du tout à tenir autant de temps et prendre autant de plaisir et de continuer à être encore là. Et non, c'est trop cool, c'est trop bien. Et on est à combien là d'épisodes? 130 par là?
Ouais, je ne sais plus exactement, ouais, tu vois.
Exactement. mais en tout cas, plus d'une centaine d'épisodes et c'est trop cool. Donc, on continue.
C'est fou, en 6 ans, comme le métier a changé, les technos ont changé. Enfin, c'est incroyable.
Ah ouais, bien sûr. Et les sujets qu'on évoquait en 2020 sont devenus complètement obsolètes. Soit obsolètes, soit en fait sont devenus des standards en mode tout le monde utilise ça, quoi. Et à l'époque, en tout cas, avant, quand on en parlait, c'était en mode le truc super early stage. Ouais, personne ne sait si on va l'utiliser ou pas. Et au final, maintenant, on utilise ça juste de manière courante, quoi. Donc, c'est très, 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 très drôle. Et on a pu voir en fait toute l'évolution, dont pas mal de sujets qu'on va évoquer aujourd'hui, dont on avait fait un épisode dédié sur justement GitHub Copilot, où là, sur cet épisode de New, on va revenir sur un choc, mais monumental, sur GitHub Copilot, qui, en fait, s'est retrouvé en fait, à injecter des pubs dans les pull requests, et pour les devs, ça s'est plutôt mal passé. Rétro-pédalage, on va en discuter, mais surtout ce qu'il y a en plus après va avoir un impact de fou, parce que les propriétés intellectuelles des développeurs vont être potentiellement compromises. On va vous expliquer tout ça, comment tout bien paramétrer votre configuration. Évidemment, la déferlante de l'IA ne s'arrête pas là. Il y a Composer qui va sortir avec des nouvelles versions. Il y a Cursor 3 qui s'annonce avec des grosses promesses de performance. On va parler d'un nouveau framework. Alors, on ne va pas dire encore nouveau, mais ArrowJS qui se veut vachement plus simple et beaucoup plus léger, et ce qui va permettre en fait aux agents de mieux les utiliser. Un Vercel qui a fait tomber son monopole avec Next, comme quoi la bataille a porté ses fruits. Et on va parler aussi du drama qu'il y a eu avec Axios et toute la sécurité. On va vous expliquer aussi comment faire pour se prémunir de toutes ces attaques, pour éviter d'être en panique à chaque fois qu'il y a un leak qui sort sur Twitter ou que sais-je. On va parler des nouveaux CMS qui utilisent plein de nouvelles fonctionnalités des outils qu'on utilise au quotidien, dont un qui se veut comme remplaçant de WordPress. On va voir si ça tient ses promesses. Et encore, on viendra sur quelque chose qui s'appelle Motion Wind, où en fait, on va pouvoir faire de l'animation juste avec des simples classes. C'est super léger, c'est super stylé. C'est le programme de l'épisode. On attaque tout de suite, Patrick ?
Ouais, c'est parti.
Allez, Cursor a présenté son nouveau modèle. Donc, à savoir que beaucoup de personnes utilisent soit Cloud Code, soit qui est d'Anthropic, soit Code Codex qui est de chez OpenIA. Sauf que Cursor, qui est un IDE qui est un fork de Visual Studio Code, par contre, eux, ils ont l'avantage, c'est qu'ils disent nous, on va créer notre propre modèle. Et donc, on va s'affranchir des gros, gros, gros majors. Et ils viennent avec une nouvelle version de leur modèle qui est vraiment optimisée. Et en fait, on voit dans une sorte de charte graphique, en fait, le rapport qualité-prix, en fait, serait hyper, hyper intéressant. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le marketent.
Ouais, c'est ça. Ils l'ont vendu... je ne sais pas si tu utilisais déjà Composer sur Cursor, parce que je sais que tu utilises Cursor.
Oui.
Donc, le nouveau modèle, là, a priori, il est beaucoup moins élevé en tarif. Après, ce n'est pas difficile d'être moins cher que tout ce qui est Anthropic, mais j'ai envie de dire, en ce moment. Mais oui, leur modèle est apparemment performant et beaucoup moins cher à faire tourner tout ça. En tout cas, les tokens coûtent beaucoup moins cher, donc c'est intéressant pour les développeurs qui, du coup, on en bouffe beaucoup quand même du token en développement. même si on ne fait pas de l'agentique automatique, tout ça, même du vibe coding, mais ça va très, très vite. Mais au-delà de ça, il y a eu un petit drama autour de Composer 2.
Ah, excellent.
qui s'est passé assez rapidement, mais c'est ça, en moins de 24 heures, hein, mais c'était très rapide. En gros, ils ont annoncé Composer 2, donc voilà, avec la petite page qui va bien, les benchmarks, tout ça, super modèle et tout. Donc, tout le monde était content, machin. Et puis, évidemment, il y a des personnes qui ont commencé à regarder un peu les appels, tout ça, comment ça marchait, tout ça. Et en fait, des devs la boîte qui fait Moonshot AI. Moonshot, c'est la boîte qui fait Kimi, qui fait les modèles Kimi K25, tout ça. Ont remarqué que les appels, il y avait des codes de Kimi au niveau du modèle, en fait. Et en gros. Donc, ils ont dit, tiens, c'est bizarre. En fait, on dirait que c'est Composer 2, c'est Kimi 2, en fait, juste. Alors, est-ce qu'ils ont juste utilisé Kimi 2.5 et ils ont marqué Composer 2, machin? Enfin, voilà, ça commence à se poser des questions, etc. Donc, après, ils ont commencé à dire, bah, en fait, on a pris Kimi 2 parce qu'ils
ont fait un fork, entre guillemets. Une sorte de fork,
on
non?
Et puis, on l'a réentraîné sur le code, donc on l'a amélioré, etc. Ok, d'accord. Mais après, du coup, Moonshot, ils ont dit, bah, écoutez, c'est bizarre. Normalement, alors le modèle, il est open source, mais vous devez quand même nous prévenir que vous allez l'utiliser, etc. Machin, il y a des licences et tout. On n'est pas au courant. Et puis voilà, donc petit drama entre Moonshot et Cursor. Et puis ça a fini, ils ont dû a priori s'arranger, puisque 24 heures plus tard, Moonshot déclarait qu'ils étaient contents, que Cursor utilise leur modèle, etc. C'était OK. Mais...
Le virement était bien passé et que ouais. Tout allait bien dans le meilleur des mondes.
Donc en gros, si tu veux, ça a été assez rapide, mais c'était surtout par rapport au fait que bah, l'annonce de Composer 2, où ils n'ont pas été transparents en disant qu'ils avaient utilisé un modèle open source Kimi 2.5, et puis surtout, Cursor est valorisé à 50 milliards, alors que Moonshot beaucoup moins, et du coup, ça, voilà, c'était un petit
ouais,
peu...
C'est une histoire de gros sous, encore.
Ils
ont trouvé le deal, c'est parfait. On ne saurait que recommander, parce que je vois beaucoup trop de développeurs, ou en tout cas, je lis beaucoup trop de développeurs qui font uniquement des tâches avec toujours le même modèle. En fait, ne faites pas ça. Il y a des tâches en fait, qui vont être beaucoup plus performantes avec un modèle. D'autres, en fait, selon la tâche que vous allez lui demander, changer votre modèle, c'est hyper important. Au-delà d'aller optimiser le prix des tokens, même en termes de performance, en termes de pertinence, le résultat en fait sera vraiment, vraiment, vraiment meilleur. Donc, moi perso, j'ai pas encore commencé, enfin, j'ai pas utilisé Composer 2 parce que j'ai pas trop codé ces derniers temps. Mais en tout cas, on va tester et on fera un retour d'expérience dans tous les cas.
Non. T'as raison de dire ça, parce que c'est vrai qu'il faut pas hésiter à changer de modèle. Il y avait un modèle sur Windsurf, il y avait un système où tu pouvais faire une sorte de battle entre deux modèles ou plusieurs modèles en fait, et voir le résultat en fait pour voir si c'était plus adapté ou pas. Donc je sais pas si ça existe sur Cursor. Donc ça c'est intéressant. Après, faut pas aussi non plus se focaliser que sur les modèles anthropiques. Il y a d'autres modèles intéressants aussi, oui. Notamment moi, actuellement j'utilise celui de Mistral là, qui est plutôt pas trop mal. Et beaucoup moins cher aussi, pareil. Et pareil, j'ai écouté un podcast d'un mec qui est assez bon, qui expliquait que des fois, en fait, tu sais, il y a un système de neurones là, au niveau des modèles. Et parfois, tu vas lancer une commande et puis il va partir complètement en cacahuète. Donc lui, il expliquait que dès qu'il voit que ça part en cacahuète, il coupe le truc et il relance en fait. Parce que des fois, ça part dans le mauvais sens. Et puis, il dit que si le modèle, il part mal dès le début, il va faire que de la merde. Donc, il vaut mieux couper, relancer. Et là, le modèle va repartir dans les bonnes directions. Donc, voilà.
Intéressant. Intéressant de tester, de voir si ça fonctionne comme manière de faire. Yes. Allez, on déroule. On revient sur le gros sujet de copilote. En fait, Copilote s'est retrouvé en fait. En fait, c'est Copilote qui a édité une PR avec de la pub, c'est ça?
Voilà, Copilote injecte des pubs dans les PR. Donc là, on a un exemple où il fait de la pub pour Recast, tout simplement. Donc c'est pas mal. Donc tu lui demandes une review de PR et lui, il te balance une pub juste dans le commentaire, donc c'est pas mal. Donc, GitHub slash Microsoft a vite fait demi-tour et ils ont vite désactivé cette fonctionnalité, qui apparemment était une fonctionnalité. Hein. Okay. Donc, on a un deuxième exemple là, tu vois, où ils parlent de réglages pour Copilot, pour que ce soit plus efficace, tout ça, avec un lien évidemment hein, vers la doc. Donc, tout ça, c'est vraiment très très mal vu par les développeurs, parce que déjà, Copilot, on le paye. Donc, s'ils pouvaient éviter de nous mettre de la pub en plus, voilà. Et. Mais bon, en ce moment, de toute façon, Microsoft est pas mal dans la tourmente entre les bugs de Windows, tout ça, Copilot, etc. Donc là, j'ai vu que la fusée qui part sur la Lune, ils ont eu des problèmes avec Outlook. Donc je sais pas si tu as suivi, c'est tout frais d'aujourd'hui. Donc c'est pas mal.
Outlook, c'est le truc. Dans ma définition, en fait, tu vois, la gestion des emails, il faut que ça soit simple. Ergonomique et rapide à traiter, parce que personnellement je déteste traiter mes mails. Donc si l'ergonomie en fait c'est un viol visuel, tu vois, c'est pas possible en fait. Et pour moi Outlook est la définition d'un viol visuel, tu vois, c'est un truc mais tellement compliqué pour et 95% des gens sur Outlook n'utilisent que 3% des fonctionnalités, quoi. Vas-y, on vire tout, on fait un truc hyper simple, ergonomique, on traite des mails, quoi, c'est tout. Et Outlook, c'est une usine à gaz non justifiée. Mais ça n'engage que moi, c'est mon point de vue.
On est d'accord. C'est clair.
Je comprends pas, quoi. Je ne comprends pas. Allez, on reste dans l'univers Copilot, GitHub, Microsoft, où ouais. Ils vont un petit peu changer les règles et ça va être un petit peu moins friendly.
Non, ouais, ça sera, c'est sympa en fait. Ils ont prévenu quand même à l'avance. Ils ont prévenu à peu près un mois à l'avance. Donc à partir du 24 avril, les données de ton code, enfin tout ton code et les dépôts privés y compris, ok, pas que le public, va servir d'entraînement pour Copilot. Voilà. Donc si tu n'es pas d'accord pour que ton code soit utilisé en entraînement, il y a une petite checkbox à aller cocher dans les settings en fait du compte GitHub et pour pouvoir désactiver le fait qu'ils utilisent le code.
Ouais, ça c'est quand même une news moi qui me paraît ouf parce que on utilise tous en fait, beaucoup de gens utilisent GitHub. Pour ouais. Comme archivage du code et donc en fait c'est le Dropbox du développeur comme j'aime le dire ok c'est super intéressant mais là en fait ils vont aller pomper toute notre code source mais qui te dit qu'ils vont pas en faire autre chose pour aller entraîner des modèles mais d'un autre côté on a pour la plupart du temps ce service gratuitement, c'est vrai.
Donc, oui, c'est vrai que oui, depuis que ça a été racheté par Microsoft, GitHub est devenu gratuit parce qu'avant tu avais les comptes privés que dans le compte payant.
Et ouais.
Et donc, quand Microsoft l'a racheté, c'est devenu gratuit même avec du privé. Donc c'est vrai.
Donc en fait, il va bien falloir qu'ils récupèrent du pognon quelque part de manière indirecte. Mais là, je trouve que utiliser la propriété du code et l'écriture du code.
Ouais, c'est fort quand même. Ouais. Ils changent les règles en cours de route, là, c'est pas terrible. Quoi.
Est-ce que c'est du vol, de la spoliation ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si on a la possibilité de le désactiver, déjà, c'est déjà vachement bien.
Oui, oui, on peut
et
le désactiver.
C'est facile à faire. Tu peux vraiment facilement.
Ah oui, c'est très rapide. Tu vas dans ton compte, dans les settings, Copilot et désactiver. Enfin, il y a vraiment un truc qui est clairement. Voilà, il y a un texte et tout ça. Donc, de toute façon, ils ont bien communiqué. À ce niveau-là, de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Hein. Ils sont obligés de communiquer et de prévenir. Mais parce que sinon, ils allaient se prendre certainement des procès ou des trucs comme ça. Mais ouais. Après, GitHub, c'est un des services le plus difficile à se passer, en fait, en tant que développeur.
Ouais, après, il y a quand même des gens qui utilisent GitHub, qui hébergent eux-mêmes leur GitLab, tu vois.
Oui, tout à fait.
Donc, ça reste possible.
Mais quand tu... Disons que c'est... Alors, tu sais, dans mon histoire de migration de services vers l'Europe, GitHub reste un service qui est difficile à migrer parce que quand tu es dessus depuis 10 ans, 15 ans, tu as énormément de repos, etc. ou de bookmarks comme toi, par exemple.
De Star.
Et voilà. Et tout ça, il faut le migrer. C'est pas simple. Voilà.
Non, c'est sûr. Et mine de rien, beaucoup de repos aussi open source qu'on utilise au quotidien
sont dessus.
Sont sur GitHub. Donc, l'actualité se fait aussi sur GitHub. Donc, difficile de se passer
Est-ce que GitHub ne devrait pas être... je divague un peu, mais est-ce que GitHub ne devrait pas être un truc sous licence Apache, open source et... Mais après, voilà, il faudrait financer tout ça, c'est encore autre chose, mais voilà.
Microsoft, Patrick.
Oui,
Microsoft.
je sais. Oui, mais voilà, c'est fini. Il devrait le donner à la communauté Apache.
Non, ça, je n'y crois pas. Rêve. Mais je n'y crois pas un instant.
C'est clair.
Allez, autre nouveauté, toujours dans la continuité de l'évolution des outils qu'on a à notre, disposition. Y a la team VS Code, il y a la team Cursor, il y a la team Cloud Code même, il y a la team Windsurf, Anti-Gravity et tout ça. Toujours est-il que JetBrain, exactement. Toujours est-il que Cursor vient avec une troisième version. C'est une version donc dite majeure. Qu'est-ce qu'elle amène en plus? Quels sont les gros avantages?
Alors, c'est ultra frais parce que c'est de ce matin.
Enfin,
de cette nuit parce que c'était aux États-Unis. Et donc, nouveauté Cursor 3. Donc, j'ai fait un petit résumé. Interface complètement repensée pour les agents. Donc, ils ont reconstruit apparemment de zéro l'interface qui est centrée vraiment autour des agents. Humain et IA entre parenthèses. Hein.
Ok.
Tu vois, parce que maintenant, on est des nous aussi, on est des agents.
On est des agents, mais on code beaucoup moins vite que.
Ouais, moins vite, mais peut-être. Ouais, bon.
Allez.
En gros, après, tu peux gérer tes agents. Alors, déjà, tu peux avoir des agents qui travaillent en parallèle. Voilà. Comme on peut l'avoir dans pas mal d'outils maintenant, comme on a déjà parlé au dernier épisode, voilà, tu peux lancer plusieurs agents et ils travaillent en simultané. Donc ça, c'est pas mal. Donc, ils se sont adaptés. Il y a une nouvelle expérience, en fait, où tu pourras pouvoir poursuivre des tâches à distance. Donc, le fameux OpenClaw, des choses comme ça, où tu peux lui parler à distance avec des outils comme Slack, tout ça, GitHub.
Ah et, ouais. Donc, en fait, je peux lancer mes agents depuis mon ordinateur ou depuis mon téléphone. Et ça, c'est exécuté sur ma machine. Et moi, je suis sur mon téléphone, je suis dans le métro ou au sommet de la montagne ou sur le télésiège. Et je regarde comment mon agent avance et qu'est-ce qu'il a créé et tout ça. C'est ça?
Voilà. De ce que j'ai compris, en fait, en gros, tu as un transfert entre local et cloud. Et du coup, tu peux poursuivre une tâche à distance, même si tu as fermé ton ordi, etc.
Excellent. Donc, excellent.
Donc,
okay.
Après, je n'ai pas plus de détails, mais voilà. On voit qu'ils s'adaptent, en fait, à toute la concurrence. Puisque Cursor, je rappelle, c'est un des premiers IDE vraiment agentiques.
IA intégré, quoi. Ouais.
Ouais, ouais. Et évidemment, il y a plein de concurrents qui sont sortis derrière. C'est toujours plus facile de sortir après. Donc, ils s'adaptent à la concurrence. Et voilà. Après, il y a plein d'autres trucs. Version simplifiée des commits. Alors, toi, tu utilises. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais commit et PR simplifiés au niveau de la gestion. Voilà, plein de trucs comme ça. Donc, à voir quoi, ce que ça donne.
Excellent. Je pourrais largement te faire à toi Patrick et à tout le monde le retour une fois que je serai passé dessus et que j'aurai implémenté tout ça.
Donc tu mets à jour ton alors a priori tu mets à jour ton Cursor et après il faut taper une commande Shift P pour passer sur la window agent voilà la nouvelle.
Ok. Je vais tester ça. Dans tous les cas, je ferai un retour. Yes. Allez, on bascule sur un nouvel univers ou en tout cas quelque chose de assez nouveau. Ça s'appelle ArrowJS. Ça se veut en fait le premier framework UI directement pour les agents. La promesse paraît assez belle parce que c'est que du JS, c'est que du natif. Ça se fait avec du WebAssembly. Et en fait, ça va pouvoir exécuter, et en tout cas créer en fait, des sortes de components directement natives. Pas de React, pas de Vue, pas de Svelte.
Rien.
Par contre, on va pouvoir quand même avoir cette réactivité grâce à des librairies en fait natives, en fait, pures, qui sont en plus typées et qui en plus, ne vont pas nécessiter la période de build, quoi, si je comprends bien.
Non, aucun, okay, ouais. Alors, au début, je ne comprenais pas en fait, leur titre, un framework pour les agents, machin. Au début, je me suis dit, c'est un langage, un nouveau langage pour les agents, tout ça. Non, en fait c'est un framework JS qui repose essentiellement sur du JavaScript natif. donc qui ne demande pas d'étape de build, de compilation de JSX, où il n'y a pas de React, il n'y a pas de vide, tout ça. Il n'y a vraiment rien de tout ça, en fait. C'est vraiment du natif. Il y a donc il y a une librairie réactive, un peu comme, voilà, avec des éléments réactifs pour des states, tout ça. Il y a des templates, tu peux faire des components. Il y a du watch. Et surtout, il y a un système de sandbox qui marche sur Wasm. Donc, tu peux avoir des components qui vont être lancés dans une sandbox séparée. Du coup, c'est en dehors de ton thread principal. Donc, plus de performance, etc. Donc, c'est plutôt pas mal, en fait. Je trouve ça pas mal. Parce que, alors, c'est un peu verbeux, comme tu disais.
Pour reprendre la punchline que j'ai dit déjà que le React était assez difficile à lire parfois. Là, c'est encore plus difficile à lire et encore plus verbeux. Mais cela n'engage que moi.
Ouais, alors après, ils sont vraiment... Alors évidemment, JS a beaucoup, beaucoup évolué, et tant mieux. Et du coup, ça permet de faire du natif, parce que là, tu n'as pas de build, tout ça. Donc, tout fonctionne en natif. On va avoir des ad-event listeners, des trucs comme ça. Tous les trucs qu'on utilise en JavaScript de base, en fait. Mm-hmm. Et qui fonctionnent directement, en fait. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, alors pourquoi agentique, du coup? Bah, parce qu'en fait, comme il n'y a pas de build, tout ça, comme c'est du natif, bah, les agents sont plus... Pour eux, ce sera plus simple, en fait, d'écrire des components, du code, etc. avec.
Ouais, beaucoup plus facile pour eux parce qu'il n'y a pas cette surcouche d'abstraction de build. Et donc,
Pas besoin de lancer des builds et tout. Voilà.
Ouais, c'est malin, c'est très, très malin. Après, est-ce que ça va percer? Est-ce que ça ira au bout? Ça, on ne le sait pas. Le nombre de fois, comme on l'a dit sur l'intro, le nombre de fois où on a présenté des technos qui aujourd'hui sont complètement mortes et on n'entend plus du tout parler. Voilà, je pense qu'il faut, rester lucide. On ne va pas mettre ça en prod, clairement. Mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose qui se veut, en fait... être un peu dans l'air du temps, justement, avec tout ce développement agentique qui est en train d'exploser en ce moment, ça pourrait être vraiment une solution pertinente, donc à suivre. Et ce qui est sûr, c'est que nous...
C'est vrai qu'il y a une tendance au no build, en fait, donc ça qu'on a vu déjà chez comment s'appelle le framework avec...
Svelte. Non.
Non, en Ruby, Rails, voilà.
Ah oui, Ruby, oui.
Voilà, il y a une tendance no build chez Rails, il y a pareil chez Symfony, voilà, de ne plus utiliser de build, etc., de lancer directement des projets sans builder le truc. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse tendance avec ça, donc ça rentre dans la tendance. Le natif, il est de plus en plus facile à utiliser, ça marche de mieux en mieux. Alors, je ne sais pas si ça sera utilisé, mais en tout cas, l'idée est pas mal. Et peut-être que de l'utiliser, tu ne prends pas tellement de risques, puisque comme c'est du natif, il n'y aura pas de breaking change par la suite, éventuellement. Donc, je ne sais pas. L'idée est intéressante, en tout cas, à suivre.
Ouais.
Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de nouveau framework.
Ah, bien sûr.
En ce moment, on ne parle que d'IA, tu vois, ça fait du bien, un petit truc.
on a complètement construit double slash sur l'arrivée d'un nouveau framework toutes les deux semaines. Donc,
ça, c'est clair.
Comment on faisait? Comment on fait maintenant? Comment on fait?
Et oui, et attends, à noter quand même que le truc ne fait que 5 kilobytes. Hein.
Et ouais, donc c'est méga, méga, méga. Ouais, c'est super léger, quoi. C'est super léger.
Et surtout, cette histoire de sandbox, c'est pas con. Mais bon, à voir.
Yes. Allez, on bascule dans l'univers CMS qui, on le sait, est en hégémonie, où WordPress règne en hégémonie totale et absolue. Là, en fait, Volt CMS se veut en fait un petit peu plus différent. L'idée, c'est d'utiliser Obsidian, qui est un équivalent... est-ce qu'on pourrait dire que Obsidian, c'est un équivalent de Notion?
Non, c'est plus complexe. J'ai du mal à l'utiliser. C'est tellement compliqué.
Les puristes vont nous incendier en disant ça. Mais en tout cas, l'idée derrière, c'est d'utiliser Obsidian comme un CMS pour aller en fait administrer son site Astro. C'est plutôt con, quoi.
Non, c'est pas con parce qu'en fait, du coup, ton site Astro, tu peux l'éditer. Enfin, c'est des fichiers Markdown, tout ça. Donc, si tu utilises Obsidian pour éditer des fichiers Markdown, en fait, c'est pas bête du tout. Après, Obsidian, il est gratuit tant que tu l'utilises pas avec des fonctionnalités comme la synchronisation, des trucs comme ça, je crois. Donc, l'idée, ça peut être intéressant, tu vois. C'est Après, j'ai pas creusé exactement comment ça marchait. Après, il t'explique comment le connecter, tout ça.
Ouais, après, en fait, ouais. Moi, j'ai un peu le sentiment que c'est quand même un truc un peu de niche, dans la mesure où si tu n'as... Si, il faut que tu aies un site Astro et il faut que tu aies Obsidian. C'est déjà assez plus que niché. Mais bon, à tester.
Ouais.
Pour ceux qui...
Après, les,
pour...
les sites Astro, il y en a de plus en plus. Moi, j'en fais régulièrement des petits sites, tout ça. C'est vraiment top Astro pour ça. Et bon, Obsidian, juste... Oh, non, mais ça peut être intéressant pour une toute petite boîte qui a un petit site avec quelques pages. Tu dis, bah voilà, pour changer le contenu, bah, Obsidian, c'est rapide, machin, tout ça. Enfin, je sais pas. Mais enfin, l'idée est intéressante.
Yes. Allez, on en avait parlé la fois dernière où justement Cloudflare avait forqué ou en tout cas avait recréé de scratch, pardon, Next.js pour le rendre ouais. un peu plus plateforme agnostique. Bah, il en fallait pas moins pour toucher l'ego de la grosse boîte derrière Next qui n'est autre que Vercel. Et donc, ils ont sorti un adaptateur pour en fait pouvoir permettre de pouvoir lancer et faire tourner Next sur toutes les plateformes.
Mmh, ouais, ouais, le reproche. Dernier épisode, on a parlé de la copie de Cloudflare de Next.js. Et du coup, ça a fait. Alors, je sais pas si c'est. Parce que ça fait quand même peu de délai entre la sortie de l'adapteur API et cette histoire de Cloudflare. Mais potentiellement, ouais, ça peut faire avancer les choses. Et bah, du coup, ils ont sorti une API adapteur pour permettre aux providers de, bah, d'utiliser Next.js pour pouvoir l'adapter, en fait, sur leurs infrastructures de Edge, etc. Donc, c'est, ça permet à tous les providers de faire l'adaptateur pour leur plateforme. Donc, en fait, pour l'instant, il n'y en a pas encore de disponible. Il y a juste un adaptateur pour Bun. Mais sinon, ils annoncent Netlify pour fin 2026, Cloudflare pour fin 2026 et AWS aussi fin 2026. Voilà. Au niveau des adaptateurs qui seront disponibles. Donc, avec, donc utilisons cette API et qui pourront donc, du coup, faire tourner Next sur leur service.
Donc, comme quoi, ce qui nous prouve vraiment que quand même un gros a envie, il peut le faire. Mais
bah,
donc,
c'est clair.
S'il ne le fait pas, ce n'est pas,
pas
pour des raisons techniques, c'est qu'il n'a pas envie. Là, je pense qu'il a dû prendre un shitstorm et Cloudflare, en fait, ont joué un peu les troubles faits dans l'histoire, sont venus secouer le cocotier fort et ils ont réussi à faire bouger les lignes. Moi, je trouve ça super bien. Et après, je rêve d'un monde d'interopérabilité où on peut brancher les données d'un service à l'autre, tout. Évidemment que quand tu es VC et quand tu as mis du pognon dans une boîte et que ton client, il peut venir aussi facilement, c'est parfait. Mais s'il peut sortir aussi plus facilement, tout de suite, c'est pas aussi agréable à entendre. Mais en tout cas, on ne peut que saluer la preuve d'ouverture de la part de Vercel sur cette ouverture qui va permettre de faire tourner Next partout, quoi.
Ouais, alors à mon avis, il y a aussi parce que. Alors, je pense, alors ça, c'est une supposition et c'est mon avis perso. Mais je pense qu'aujourd'hui, autant à une époque, Vercel était vraiment sur l'hébergement, il l'est toujours, mais beaucoup sur l'hébergement. Et du coup, Next, le fait de faire tourner sur Vercel, tout ça, ça leur apportait de l'argent beaucoup. Qu'aujourd'hui, je pense qu'avec l'IA, tout ça, parce qu'ils proposent des modèles, tout ça, machin, tout ça, ils ont peut-être un petit peu. Transférer des revenus sur d'autres trucs comme l'IA, tout ça. Et du coup, bah, potentiellement, ça leur permet d'ouvrir plus facilement à d'autres providers parce que du coup, bah, c'est plus leurs revenus principaux. Bah, après, c'est mon avis, mais je sais pas si t'es d'accord. Mais,
je sais pas. Franchement, je ne sais pas parce que, mine de rien, leur business model, c'est quand même du build time, quoi. Ils te vendent du build, hein. Ils te vendent du build, ils te facturent du build, tout. Donc, oui, toute l'interface, c'est facile. En trois clics, tu as fait les connexions. Ils ont développé tout un système de marketplace où, à mon avis, chaque client qui passe par leur marketplace, ils doivent laisser une commission à Vercel. Donc, plus ils ont d'opérateurs, je pense à Upstash, Neon, Turso, Melisearch ou que sais-je, voilà, il y a y a plein de services qui sont directement intégrés dans la plateforme de Vercel. Et donc, Vercel doit prendre sa dîme. Donc, je pense que le revenu, il est quand même peut-être plus diversifié. Je sais pas.
Ouais, après, c'est sûr que de toute façon, en termes d'interface entre Vercel et, ou du Netlify, ou du Netlify, du Cloudflare ou de la AWS, c'est sûr que c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est beaucoup plus facile chez Vercel.
Oui.
Même si Cloudflare, ça va encore, mais le pire, c'est AWS. Mais bon.
Ouais. Bah, Cloudflare, ça pique quand même les yeux. Hein. C'est pas.
Oui, c'est sûr. Ça pique. D'ailleurs, au lieu de faire un next, ils auraient mieux fait de refaire l'interface avec l'IA, quoi.
Ouais. J'aime beaucoup. Allez, on reste dans l'univers JavaScript. Alors non, ce n'est pas un nouveau runtime. On a eu Node en hégémonie pendant très longtemps. On a eu Deno qui est venu. On a le nouvel arrivant qui est Bun. Mais là, en fait, c'est un nouvel environnement d'exécution de son code. Mais le gros avantage, c'est qu'il est ultra léger, il est compatible 100% avec Node. Et en fait, il s'installe en ligne de commande, c'est ultra léger ou c'est directement portable, c'est ça ?
C'est totalement portable. En fait, tu l'installes, tu le lances. En fait, en gros, une fois que tu l'as installé, tu as une commande Edge et tu mets Edge avec le fichier index.js, par exemple. Et ça va lancer ton script Node ou ton serveur Node ou n'importe quoi, en fait. Et du coup, t'as pas besoin d'installer de Node sur la machine, etc. Ça marche direct, en fait. Donc, c'est hyper simple. Et c'est totalement portable. Et c'est, comme tu l'as dit, c'est 100%. Tu vois, en plus haut, là, ils indiquent les compatibilités avec Node. Et c'est eux, ils sont 100%. En fait, c'est du Node. Donc, c'est 100% compatible.
OK. Voilà. Et c'est porté, en fait, par Wasmer, c'est ça ?
C'est ça, c'est Wasmer qui l'a fait, ouais. Ouais, c'est une boîte qui développe des sandbox comme ça en Wasm. Enfin, ouais, c'est ça, c'était du WebAssembly. Beaucoup de Rust aussi, je crois, au niveau de leur code. On avait reçu un développeur à l'époque de chez eux, qui n'est plus chez eux d'ailleurs.
Un ancien de chez Mozilla.
Ouais, ouais, qui avait bossé chez eux. Ils faisaient beaucoup de Rust et tout ça. Donc voilà, ils sont spécialisés dans les sandbox Wasm.
Et l'objectif, clairement, c'est quoi ? C'est pour faire tourner du test, pour faire remplacer Docker, pour
Ils parlaient de remplacer Docker, en gros. Ils disaient, ouais, Docker, c'est compliqué. Après, je sais plus. Attends, c'était quoi déjà qu'ils disaient ? J'ai plus le truc en tête, mais non, tu peux le faire tourner partout. Si tu, voilà, c'est du Node portable et... ça marche
et,
nickel,
et potentiellement ça peut être plus facile à faire tourner
sur des petites machines, tout ça, t'as pas besoin d'installer tout, c'est enfin je l'ai installé sur ma machine, ça a marché direct. Là j'ai lancé un npm run dev sur de l'astro et ça a marché direct. C'est hyper rapide, hyper simple.
Cool.
À voir, il y a sûrement des use cases pour l'utiliser sur certaines machines, tout ça, des petites machines, quoi.
Intéressant. Allez, on revient sur là un drama que j'ai raté total.
Ouais.
Une des grosses librairies qui est utilisée dans beaucoup 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 de nos dépendances, Axios, a été en fait infiltrée par un cheval de Troie. Comment ça s'est passé ? C'est quoi cette histoire ?
Alors en gros, il y a eu alors pour résumer, en gros, il y a eu un token de GitHub qui se baladait, je sais pas où, que le mec a récupéré et il a pris la main en fait. Et en gros, il a poussé des modifications de code, mais avec l'identité du mainteneur principal. Et donc c'est passé crème. Ouais. Et donc dedans il y avait du code obfusqué, tout ça machin, qui en fait le but c'était que dès que tu l'installais sur ta machine, donc c'était plutôt orienté pour les devs, tu vois, tu mets à jour Axios, tu lances ton dev, tout ça, et en gros le code se lance et prend la main sur ta machine et commence à chercher de la crypto, des trucs AWS, enfin voilà, tout truc classique, quoi, tu vois. Mais voilà, et c'est vraiment passé vraiment sans problème, parce que voilà, tout ça à cause a priori d'un token non expiré, non, voilà, qui traînait quelque part, je sais pas où. En gros, là, l'article le résume un peu plus, mais après, du coup, ils ont fait un post-mortem aussi sur GitHub pour expliquer en plus en détail pourquoi, comment c'est arrivé, etc.
Ils ont refait l'histoire. Ouais. Ça a été très vite patché.
Ça a été très vite patché. Alors, ils te disent de downgrader la version, donc de pas utiliser la version qui avait été publiée. Et tu vois, il y a un dossier dans le node module plain crypto.js qui a été créé, donc celui-là, il faut le virer. En gros, tu le vois de suite si tu cherches plain crypto.js, enfin -js, là. Si tu trouves ce dossier-là quelque part dans ton ordi, c'est que tu as été injecté.
Pas bon.
Ouais, t'as perdu.
Ok. Et potentiellement, en fait, comment on pourrait faire pour éviter justement de se faire un peu de surinstaller des dépendances qui ont été compromises, et en fait notre surréactivité à garder les dépendances à jour parfois peut nous amener en fait à justement être compromis avec ce genre d'attaque en fait.
Ouais, il y a différentes solutions. Alors, j'en ai noté 4 là. Donc déjà, tu as un outil qui est gratuit en plus, un socket firewall qu'on avait déjà évoqué dans un autre épisode. En fait, tu l'installes sur la machine et en fait, tu vas faire un SFW, je crois, npm install par exemple. Et du coup, ça va faire une sorte de firewall sur les packages. Ça va vérifier si les packages, il n'y a pas des problèmes de sécurité, tout ça. Donc ça, c'est pas mal. Déjà ça, c'est j'invite à l'installer SFW, tu vois. Et de suite, il te bloque le package. Là, on voit la photo. Et ça, c'est bien, c'est gratuit. Tu peux l'utiliser. Donc franchement, il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. Et tu peux même faire un alias. Moi, j'avais fait un SNPM, un truc comme ça. Du coup, ça marche à chaque fois. C'est pratique. Donc ça, c'est la première solution. Il y en a d'autres aussi, hein. Mais ça, c'est le principe. C'est un qui est gratuit, qui est pas mal. Bun avait rappelé aussi qu'on pouvait déterminer le minimum de release d'âge, c'est-à-dire qu'on va dire, tu mets pas de package qui ont eu une release de moins de 7 jours, par exemple. Donc du coup, si tu as un réglage comme ça, si cette semaine, tu avais fait mise à jour Axios, tu l'aurais pas eu parce qu'en fait, bah, il était moins de 7 jours. Donc voilà. Donc ça, c'est pas mal aussi comme réglage. Et ensuite, tu as... Ah oui, il y a ça aussi, Bun qui intègre un plugin de Security Scanner. Donc sur Bun, tu peux mettre des plugins. Et ça, c'est un plugin qui va scanner tous tes packages pour dire il y a un problème, etc. Bon, là, c'est un peu trop tard. C'est parce que si tu l'as installé, c'est déjà trop tard s'il le trouve. Ouais. Et sinon, il y a ce tweet-là qui explique comment faire un petit alias pour dire à NPM, pareil comme Bun, de pas mettre des packages de moins de 7 jours. Voilà, avec des releases de moins de 7 jours. Ouais. Ça, c'est pas mal aussi, le petit alias npm before date machin.
Excellent. Voilà. Et pour le coup, est-ce que parce que je sais pas si toi tu freezes tes versions ou tu laisses le petit chapeau dans ton package JSON à discuter avec différents développeurs.
Ah, j'ai le petit chapeau.
Toi, tu le gardes ?
Ouais, je le garde. Ouais, je le garde.
Ok.
Alors
en fait il y a deux écoles. Moi perso, mon école, c'est quand je fais ma mise à jour de dépendance, je vais la faire moins souvent, mais en fait je vais la faire en mode strict, et donc c'est moi qui choisis la version que j'utilise, et je ne permets pas d'utiliser la version supérieure à quoi, parce que justement pour éviter ce type de problème là. Par contre, ça a un autre avantage, ça a un désavantage, c'est que justement je dois le faire moi-même, et donc je dois sécuriser le fait de que tout fonctionne correctement et que il y a pas de mauvaises injections qui ont été faites quoi.
Non, moi je garde le petit chapeau. C'est vrai qu'après les mises à jour, je suis pas un assidu, je le fais pas tous les jours non plus, mais voilà, là pour le coup, pour Axios, tu tombes, il suffit que tu fasses au mauvais moment et puis
t'as mis le mauvais, ouais, clairement.
Moi j'utilise un truc qui s'appelle alors j'utilise npm hein, beaucoup maintenant. Plus moins npm ou yarn, mais plutôt npm, je suis revenu à la base. J'ai un truc interactive upgrade là.
OK.
Un peu comme on a sur yarn tout ça, et du coup j'ai fait un npm i, un alias, et du coup ça me fait la liste de ce qu'il y a à mettre à jour, si c'est des majeurs, des mineurs, etc. Donc c'est pas ça, c'est pratique. Mais c'est vrai que je me serais fait avoir si jamais j'avais fait une mise à jour. Après Axios, je l'utilise pas moins de... Alors, c'est ce qu'on disait juste avant, Axios, je l'utilise pas forcément. J'ai du fetch maintenant, comme beaucoup de développeurs. Mais le problème, c'est que tu vas potentiellement avoir une dépendance qui va l'utiliser. Donc,
et ouais, c'est indirectement. Indirectement.
D'où les sockets, les outils comme Socket Firewall qui va aller vérifier aussi les dépendances. Et ouais.
Intéressant. Intéressant. Allez, on va parler de ma petite pépite de découverte qui m'a sauvé mais tellement des heures de debug et je suis complètement fan. On avait évoqué le fait d'utiliser en fait Sentry pour aller relever toutes les erreurs et tous les bugs potentiellement qui peuvent être en production dans lesquels on n'a aucune information, on n'a aucun retour. Résoudre un bug qu'on a en local, souvent en tant que développeur, on arrive facilement à le voir parce que on a la console ouverte, on voit l'erreur. Sauf que quand on a une erreur dans un contexte particulier en production, pour avoir de l'info, c'est beaucoup plus difficile, à part si on a quelqu'un qui nous appelle et qui prend notre téléphone, qui nous appelle, qui nous écrit le mail et qui nous dit « Oui, alors là, dans telle page, je clique sur tel bouton, je m'attends à voir ça et pourtant, je n'ai pas ça. » En clair, ça n'arrive jamais.
Non.
ça n'arrive jamais. Donc, il y a des super outils pour ça, dont un qui s'appelle Sentry. Et Sentry, en fait, j'ai découvert ça très tard, mais qui a un nouvel outil basé sur l'IA qui s'appelle CIR, où ils vont utiliser le relevé d'erreurs, donc par rapport à notre build. Je vous rappelle qu'on est obligé d'envoyer en fait notre code source et notre source map en fait pour pouvoir faire en fait le mappage entre le build et le code source. Ce qui fait que Sentry en fait a à la fois le build et le code source, et ce qui va permettre en fait à Sentry de dire ok, l'erreur vient de ce bout de code du build qui est associé à telle ligne de code sur ton code source. Et grâce à ça, en fait, par-dessus ça, en fait, ils ont une fonctionnalité où tu leur dis, vas-y, va chercher l'erreur. Et en fait, ils vont utiliser toute leur ingénierie IA pour aller inspecter ton code, le build, l'erreur, et de dire, nous, en fait, on pense que l'erreur, elle vient de telle ligne à telle ligne. Tu devrais faire ça pour éviter en fait de tomber dans ce contexte-là, parce que moi j'ai eu le cas par exemple sur une session privée sur mobile iOS 18. En fait, la version de Safari supprime certains types de cookies et donc il faut ajouter des paramètres spécifiques dans les cookies, sinon en fait ils disparaissent. Ce cookie était dit essentiel pour moi. En fait, j'en avais besoin dans mon système, et donc en fait ça me générait une erreur et je comprenais pas pourquoi. C'était impossible, je comprenais pas l'erreur, je la voyais mais j'étais dans l'incapacité de la résoudre. Grâce à cet outil là en fait je l'ai résolu et j'étais mais comme un dingue, parce que c'est vraiment magique, c'est à la fois mystique et ça fait parfois même un petit peu peur, parce que là c'est très 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 puissant. Et donc maintenant je suis passé en mode routine, si tu veux, où je prends deux heures dans la semaine et je tacle je tacle tous mes bugs que j'ai grâce à cet outil là ce qui en fait me fait une sorte de pré-mâchage, et ça vient faciliter mon boulot de ma boule.
Ouais, non, mais c'est de toute façon, il y a des erreurs, tu enfin il y a des trucs, tu peux. Déjà, il faut comprendre l'erreur et puis dans quel cas. Voilà. Et c'est vrai que là, c'est pour ça l'IA, elle est capable de trouver des choses. Enfin, on ne peut pas tout savoir, nous. Donc,
Non, parce qu'en fait, il y a trop de données, si tu veux. Il y a trop de données à mettre en corrélation, à paralléliser. On pourrait le faire, mais ça demanderait des heures et des heures de travail. Et donc là, en fait, c'est un gain de temps. Après, évidemment que tu gardes ton esprit critique, tu dis non, mais attends, mec, là, ce que tu me dis, c'est complètement débile. Mais j'ai jamais eu ça. J'ai dit, tu regardes la préconisation et tu fais, ah, c'est pas con. Ouais, ça se tient dans tel endroit, tel moment, tel contexte. Ouais, ça se tient. Alors, par contre, attention, ce n'est pas accessible aux utilisateurs gratuits. C'est utilisateur payant. Et c'est une fonctionnalité qui coûte $40 par mois. Donc
Ouais, après,
Non, non,
si
mais tu sais quoi? Attends, mais le
temps
que j'ai gagné. Non,
pas,
non, non, mais
ça
attends,
va,
attends. Moi, je t'arrête tout de suite. À 40 balles ouais. par mois, $40,
c'est
donc ça, c'est voilà. Là, c'est vraiment shut up and take my money, tu vois. C'est, là, je cherche.
C'est 40
même
balles,
pas.
40 balles, hein. Il n'y a pas de.
Non, c'est 40 balles, 40 balles.
Okay.
C'est 40 balles, 40
en
balles.
En plus de l'abonnement Sentry ou c'est.
C'est en plus de l'abonnement Sentry, ouais.
D'accord.
Donc
non,
mais
non, non,
attention,
ça vaut
c'est 40 balles par utilisateur actif. Mais moi, dans, chez mon Sentry, je suis tout seul, donc ça va, tu vois. Mais non, franchement, c'est très, 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 très intéressant.
Et du coup, attends, il te suggère, donc il te dit, ouais, alors je pense que c'est ça qu'il faut faire, machin bidule. Est-ce que à partir de là, tu peux lui faire ouvrir une PR pour une correction et
oui.
Toi, tu as juste à valider. Okay,
oui.
D'accord.
En fait, tu lui dis.
Est-ce que tu peux le faire de WhatsApp?
Alors, non, tu peux pas le faire depuis WhatsApp. En fait, l'expérience, c'est vraiment OK. Est-ce que tu veux que Cyr, en fait, analyse et te fasse des préconisations? Oui. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de contexte? Donc, soit là, t'as un bout de texte. Soit tu mets rien. Soit tu mets quelques plus d'infos, quoi.
Ouais.
Et lui, il vient analyser et il te dit OK, je pense que l'erreur, c'est ça. D'accord. Comment tu fais pour résoudre cette erreur? Est-ce que tu veux qu'on regarde ensemble comment on pourrait résoudre cette erreur-là? Oui. OK. On résout cette erreur-là. OK. Pour résoudre cette erreur-là, il faudrait que tu injectes tel code. Est-ce que tu veux que je fasse une PR? Oui. OK. Il fait la PR et après, bah, t'es sur ton GitHub. Tu merges pas. Tu fais pas.
Ok, non, non, c'est pas mal. Non, je t'avoue que Sentry, on l'a sur certains projets avec des clients et certains gros projets, même en ex, tout ça, et avec beaucoup de visites. Et des fois, on essaie de s'y coller un peu, et mais tu. Il y en a, t'arrives pas à comprendre exactement ce que c'est l'erreur et tout. Du coup,
ouais.
ça traîne des années, en fait.
Ouais. Et en plus,
ça dépend du navigateur et tout ça, quoi.
Exactement. Et alors, pour le coup, là, je suis avec un projet qui est quand même assez conséquent. Il y a du chiffre d'affaires qui est généré tous les mois. Et donc, il y a le client, en fait, j'ai signé un contrat avec le client aussi pour, en fait, maintenir le système performant, quoi. Et maintenable et faire l'entretien. Et donc, en fait, si je devais faire ça à la main, j'y passerais 2, 3, 4, 5 fois plus de temps. Vraiment, c'est. Et je sais même pas je serais capable en fait.
Même
de
au-delà de
celle
que tu n'arriverais pas à résoudre.
Exactement.
Plus, tu vois le
exactement.
Truc du cookie sur Safari avant de le trouver, mon gars.
En session privée, quoi. Tu vois, c'était là, tu fais. Wow.
En plus. Ouais, mais les mecs, il est en session privée. Je peux rien faire.
mais il a le droit. C'est son choix. Il a le droit. Donc ouais. Non, super
ouais, pas
outil.
Mal.
Pas donné, on est d'accord, ça a un prix, mais clairement, si vous utilisez Sentry, testez-le, vous avez 15 jours gratos pour l'user.
Mais heureusement, on a un code de parrainage. Non, je déconne. Non, nous, on n'a rien, on n'est pas sponsorisé.
Non, on n'a rien. Drôle. Allez, on déroule. On revient sur Claude Flair qui.
Encore eux.
Avec la dernière fois, ils s'attaquaient à Vercel en disant que Next, on a refait Next. Et là, ils disent non, nous, on fait
on
le
fait
nouveau
WordPress.
Rien que ça. Rien que.
Ah,
rien,
les mecs,
rien
sont
que
chauds.
Ça. Ouais.
Les mecs, ils sont chauds, ils attaquent tout le monde en ce moment.
Le nouveau WordPress, donc c'est clairement un CMS qui s'appelle M-Dash.
Alors, M-Dash, ça me fait marrer. Ah oui, je ne l'ai pas marqué dans les notes, mais il y a un truc qui s'appelle M-Dash aussi, qui est une sorte d'éditeur de code agentique aussi. Donc, c'est marrant, et c'est exactement le même nom. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait exprès ou pas, mais. Donc, si tu tapes M-Dash dans Google, tu verras, tu vas tomber sur un éditeur de code.
Peut-être un peu maladroit.
Ouais, c'est clair. Non, en gros, ils ont. Après, c'est attaqué à Next, ils se sont attaqués à WordPress en disant le problème de WordPress, c'est la sécurité, machin. Évidemment, on sait tous que. Le talon d'Achille de WordPress, c'est les plugins et que la plupart des problèmes de failles, ça vient des plugins puisqu'en fait, le corps de WordPress est super... il est carré, quoi. Il n'y a pas de problème généralement. Et la plupart du temps, ça vient d'un plugin qu'on peut installer ou qu'on n'a pas mis à jour, ou qu'il y a une faille qui a été détectée. Il faut faire vite une mise à jour, mais bon, les gens ne font pas forcément les mises à jour de suite. Donc, en gros, partant de ce principe, ils ont décidé de réécrire un CMS en TypeScript donc qui est un peu très ressemblant à WordPress avec l'interface qui ressemble beaucoup, des plugins, etc. Alors, les plugins, ils fonctionnent. Alors, il y a tout un explicatif là-dessus. Tu donnes différents droits aux plugins. Du coup, ils sont un peu sandboxés, entre guillemets. Et voilà, tu leur attribues des read content, email send, tu vois, donc capabilities, tu vois. Et donc, le plugin, il peut faire pas plus que ça, quoi. Donc, ça évite éventuellement les problèmes de sécurité, tout ça. Donc, sur le papier, c'est pas mal. Après, le back, donc c'est du TypeScript, comme je l'ai dit, il y a pas mal de trucs intéressants. Ça reprend vraiment les grands principes de WordPress, hein, les posts, les pages. Après, tu peux créer des content types, d'autres types de contenus. Tu peux créer des champs, etc. Enfin, voilà, c'est pas mal. Tu peux le tester, d'ailleurs, hein, y a un lien. Et le front, alors, c'est pas mal aussi, parce qu'on se rappelle que Cloudflare avait plus ou moins racheté Astro, enfin, en tout cas, l'équipe d'Astro. Et devine, le front est fait comment ? Bah, avec de l'Astro. Eh oui.
Okay. Donc ça, c'est c'était pas mal. Ma question, parce qu'en fait, j'étais là, ok, mais en fait, c'est quoi ? C'est vraiment un truc API-based, tu vois, où c'est, en fait, c'est que du headless, ou en fait, non, c'est front et back. Parce que, en fait, ouais. Le gros avantage de WordPress, c'est qu'un non-développeur va pouvoir l'utiliser. Et là, quand je vois les hooks et la mise en place... Ouais, c'est pas...
C'est pas donné à tout le monde.
Non, c'est pas accessible à tout le monde. C'est quand même... Il faut avoir un bagage tech. Donc, ouais. Donc, ok. Et donc, le front, c'est en Astro.
C'est ça. Le front, c'est de l'Astro. Donc, bon, voilà. En fait, le truc sur le papier, il est pas mal. Hein, c'est rien à dire. Qu'est-ce que j'oublie ? Ah ouais, il est aussi... AI native, voilà comme ils disent. AI native, donc c'est-à-dire il y a des MCP, il y a des, enfin tout est voilà, tu peux l'ANC, LI, des skills, enfin tout ce que tu veux. Donc en fait c'est vraiment un CMS ultra moderne, etc. qui soi-disant corrige les problèmes de WordPress. Alors évidemment les retours ça a été, bah écoutez le problème c'est que le comme tu l'as dit, le succès de WordPress c'est parce que c'est facile à prendre en main, c'est parce qu'il y a un énorme écosystème, etc. Parce que c'est du PHP et que c'est facile à faire. Enfin là, il y a plein de voilà, c'est pas seulement. Enfin, en gros, il suffit pas de dire j'ai fait un truc WordPress mieux pour que ça marche. En fait. Donc
oui,
voilà. Mais le truc est quand même pas mal.
Ouais, après sur le papier, c'est très très bien. Ouais. C'était ma question et je scroll et je trouve ma réponse justement dessus. De pouvoir en fait comment. Importer, en fait, faire une migration de WordPress, parce qu'ils se veulent le WordPress killer. Ok, très bien, je reprends leur terme. Par contre, qu'en est-il de la migration de mon WordPress vers ce fameux Mdash ? Et apparemment, ils ont un Mdash, un WordPress importeur, où en fait, je vais pouvoir prendre mes fichiers ou mes Advanced Custom Fields, et je vais pouvoir en fait les importer directement.
Ouais.
Sur le papier, ça a l'air super cool. Après, je veux voir. Et il y a un truc aussi qui me dérange. Enfin, pas qui me dérange, mais avant de me lancer corps et âme là-dedans, clairement, moi, je veux voir plus de maturité, quoi. Je me rappelle d'une migration que j'avais faite sur un truc qui s'appelait à l'époque GridSum, qui se voulait en fait un générateur de sites statiques, tout, qui était super bien. Du jour au lendemain, plus de son, plus de lumière. Moi, j'ai deux sites en prod. C'était l'enfer, quoi. C'était l'enfer. Donc, tu te retrouves à faire des migrations, mais le client n'est pas totalement prêt à la payer parce qu'il dit non, mais attends, mais moi, je m'en fous de ton putain de grid sum ou machin, c'est pas mon problème.
Moi,
quoi.
Je peux mon site.
Tu vois, moi, je m'en tape, tu vois. Donc, tu te démerdes.
C'est clair.
Et il a raison.
Et c'est normal.
Il a raison.
Ouais, c'est clair.
Il a complètement raison. Donc, sur le papier, ça a l'air super bien. Après.
Ouais. Alors.
Wait and see, hein. Wait and see.
Alors, ouais. Alors, sur le papier, effectivement, c'est pas mal. Je trouve que... Ah, déjà, WordPress... là, quand tu vas sur l'admin, en fait, t'as des trucs pour éditer le contenu des posts ou des pages. C'est hyper basique. T'as juste un éditeur de texte. Enfin, voilà, c'est l'ancien... On va dire c'est l'ancien WordPress, parce que maintenant, t'as Gutenberg qui est hyper... avec des blocs, etc., qui est vraiment excellent. En fait, moi, je trouve que c'est maladroit de... En fait, ce qui est dommage, en fait, si tu veux, que là, c'est un CMS qui semble intéressant. Donc, à voir si ça va être maintenu, si ça va évoluer, etc., si, voilà, s'il y aura une suite. Mais le CMS, en lui, est quand même intéressant, en ayant de l'astro devant tout ça. Je trouve ça maladroit, en fait, de de faire une intro comme ça en disant c'est le successeur de WordPress, etc., en attaquant WordPress. Moi, j'ai envie de dire non, c'est un CMS qui est un CMS à part, qui est bien fait, etc. Pourquoi de suite le comparer à WordPress, tout ça, quoi. En fait, c'est un peu con, quoi. En fait, on peut dire que ça serait une sorte de CMS pour les devs, pour les gens techniques, sécurisés, etc. Mais pourquoi de suite dire c'est mieux que WordPress, etc. Après, c'est pour faire de la polémique, et de la communication.
C'est du marketing.
Bah oui, mais bon.
Patrick, c'est du marketing, du buzz.
Ouais, mais du coup, tu vois.
On tacle aux amygdales direct.
Voilà, toutes les agences WordPress, tous les experts WordPress, bah, ils sont tombés dessus en disant bah non, c'est de la merde, etc. C'est pas rien à voir, etc. Finalement, c'est de la communication, mais d'un autre côté, c'était pourquoi faire ça, quoi. Alors que ils auraient pu faire une sortie. Bref, c'est vrai qu'on en aurait moins parlé, et ça se trouve, on n'en aurait pas parlé.
Buzz, buzz ou bad buzz, ouais, ça reste du buzz.
On en a parlé.
Exactement. Voilà. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça.
Allez. Donc voilà, MDash à suivre, hein, voir si ça continue. Mais le truc est super intéressant quand même.
Carrément.
À voir. Je n'ai pas testé, mais dès que j'aurai un petit peu de temps, je testerai pour voir.
Allez, un nouveau truc qui est plutôt pas mal pour justement tester, pour savoir en fait quel est le modèle qui passe le mieux ou en tout cas qui est le plus adapté à notre machine. Il y a un site qui s'appelle Can I Run, qui est en fait un peu une extension, en tout cas, qui s'inspire de la même veine de Can I Use, qu'on connaît tous, développeur front-end, pour savoir en fait si la propriété qu'on veut utiliser est acceptée dans notre navigateur. Là, en fait, c'est un peu le même délire, mais avec des modèles. Et en fait, on va pouvoir utiliser caniRun.ai, qui vont en fait faire des tests pour savoir quelle machine on a, quelle puissance on a et quel est le modèle qu'on pourrait faire tourner en local de manière facile et fluide avec des bonnes performances.
Du coup, on sait maintenant ce que tu as comme ordi. T'as 24 gigas de RAM.
C'est ça. Et j'en ai pas 24. C'est faux.
Ah bon ?
Non.
Ah merde, c'est planté.
C'est faux.
Il
s'est planté. Et donc, ça, c'est la version web. Donc, c'est assez visuel. C'est assez sympa pour... Ouais, vas-y.
Ouais, c'est pas mal. Non, mais j'allais dire, en fait, parce qu'on en a déjà parlé, on parle souvent d'Olama, tout ça. Et c'est vrai que la promesse de faire tourner des modèles sur son ordi, oui, c'est super. Par contre, quel modèle, quel ordi, etc. Et il faut savoir que... Enfin, j'ai vu des tests, des vidéos, tout ça. Je crois que j'avais partagé une fois où le nombre de tokens à la seconde... En fait, quand tu fais tourner un modèle sur en local, on parle de tokens à la seconde. Et suivant la puissance de ta machine, en fait, et le modèle que tu lui fais tourner, en fait, il est complètement ralenti, voire il te fait complètement planter la machine, en fait. Donc, c'est pour ça que ces systèmes-là sont vachement intéressants, parce que tu peux voir jusqu'où tu peux faire tourner des modèles, quel est le modèle qui peut tourner correctement sur ta machine et être utilisable, hein, parce que c'est ça le truc, c'est que si tu lui poses une question et qu'il met 5 minutes pour te répondre, tu peux pas, même si tu veux faire du code avec tout ça. Donc, là, c'est super intéressant. Franchement, et là oui, par contre ça utilise en gros les infos de ton navigateur, donc c'est pour ça que c'est précis, plus ou moins, enfin voilà, il y a une erreur là, tout ça, mais...
plus ou moins précis, je peux te le dire. Ce qui m'amène en fait à l'autre sujet, où toujours dans la même veine en fait, par contre moi c'est un petit outil que j'ai trouvé, que j'ai déjà installé, qui s'appelle LLM Fit. Et là en fait c'est une CLI qu'on vient installer avec un TUI, donc un Terminal User Interface, mais où en fait on peut rentrer et on a exactement les mêmes infos, sauf que vu que c'est une CLI, elle a accès directement à la machine et il n'y a pas cette interprétation, en tout cas ce proxy dû au navigateur. Là, on est directement sur la machine et donc on a tout le fit. Si ça good, si c'est perfect, et pareil, on peut trier selon les providers, selon les tokens à la seconde, les paramètres, et le mode. C'est exactement pareil, sauf que c'est pour la version un peu barbu terminal, quoi.
Ouais, disons que là, tu as les vraies infos de ta machine. C'est ça qui est intéressant. Par contre, celui d'avant, ce qui est aussi pas mal, c'est que si tu envisages éventuellement d'acheter une machine Apple, je sais plus comment il s'appelle, pas le
mini,
l'autre,
un M5 Pro par exemple,
tu vas pouvoir voir ce que tu pourras mettre comme modèle dessus. C'est ça qui est intéressant aussi. Avant d'acheter, tu vois, tu peux tester et dire là, pour faire tourner OpenClaw, je pourrais faire tourner tel modèle et tout ça. Donc voilà.
Eh oui. Et oui, très intéressant de voir en fait combien, aussi en projection en fait d'un achat. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok, allez, on bascule dans un univers un petit peu plus léger d'animation, de des choses qui bougent, tu vois. Et je me rends compte qu'on garde souvent ça aussi pour la fin, cette légèreté de CSS, alors qu'on sous-estime vraiment la capacité technique, artistique, performance, de création et de justesse dans les animations. Je vois beaucoup trop de développeurs qui mettent des animations de bourrin et tout est dans la subtilité et souvent, enfin, c'est des compétences qui sont souvent bien trop ignorées ou en tout cas sous-valorisées grandement. Mm. Et là, en fait, c'est une petite librairie qui s'appelle Motion Wind qui se veut en fait la fusion un petit peu entre Motion, donc la librairie d'animation en JS, et Tailwind qui est la bibliothèque de classe utilitaire. Et la fusion des deux, ça donne quoi?
Eh bien, ça donne en fait que tu vas pouvoir mettre des animations sur tes components. Donc, alors, c'est que React, normalement, si je ne me trompe pas. Et en gros, au lieu de mettre des attributs sur tes éléments, tes tags, tout ça, bah, tu mets des classes. Et du coup, c'est transformé. Alors, derrière, ça, évidemment, ça le transforme avec des attributs. Ça convertit ça en attributs. Derrière, toi, tu t'embêtes pas à écrire des attributs, tout ça. Tu mets des classes et puis ça marche. Donc, si tu fais déjà du Tailwind CSS, ben, tu rajoutes des classes pour les animations et tes components s'animent automatiquement. Et ça, c'est super.
Et je vois que c'est pour le web et pour React Native.
Ouais, React Web et React Native. Ouais. Mmh.
Ouais. Mais ça reste du React. Mais ouais,
désolé.
Voilà, mais c'est très bien.
C'est pas mais c'est dommage. Mais ouais, après, il y a du Babel. Tu vois, c'est Babel qui fait la transfo, mais c'est quand même pas mal. Hein.
On était sorti de Babel. On va y retourner, quoi.
Ouais, on y revient. Putain, c'est fou ça.
Non, mais c'est vrai que parfois, en fait, ça peut être plus facile, en fait, d'utiliser ces classes utilitaires parce qu'on va pouvoir les mettre aussi dans des classes. Voilà, afficher la même animation partout. Bon, on va lui donner une énorme classe qui va hériter de ces classes de Motion Wind qui est au moment du build en fait tout sera interprété correctement. Voilà, ça me paraît assez intéressant en termes de d'usage. Par contre, ça veut quand même dire qu'il faut maîtriser Tailwind parfaitement. Vouloir utiliser Tailwind et maîtriser aussi Motion parfaitement. Parce que si on ne sait pas utiliser Motion correctement, à mon avis, ça va être très compliqué.
Ouais, de toute façon, comme utiliser Tailwind CSS, il faut que tu connaisses le CSS. Si tu veux utiliser Motion, il faut comprendre aussi comment ça fonctionne, les animations.
Parce que là, c'est un niveau d'abstraction au-dessus, donc ça veut dire que tu gères les fondamentaux. Comme d'habitude.
Toujours. Si ouais, de toute façon, la base est toujours super importante.
Ouais.
C'est clair.
Mais en tout cas, si vous utilisez Motion, React et Tailwind, ça peut être une super librairie pour aller faire ça en mode one line et c'est assez classe. Allez, on bascule dans l'univers design avec un petit article sur LinkedIn responsables.
LinkedIn. Désolé.
Ouais.
C'est sur LinkedIn.
Désolé. Un retour d'expérience, en fait, d'un... Alors, je ne sais pas s'il est designer ou si c'est le chef designer ou si c'est lui qui pilote l'équipe ou qui a piloté le projet. Mais en tout cas, un design system sur différents groupes bancaires avec, c'est annoncé, 23 marques, 800 développeurs. C'est quand même un gros projet, quoi.
Ouais. C'est un. Alors, il revient sur ce projet de design system. Alors, design system, c'est en gros, pour ceux qui sont pas trop au courant, mais en gros, c'est un système. On va faire des components, des couleurs, etc. Décider comment sera le texte, taille de texte, taille de les champs de formulaire, etc. Tout sera décidé en amont dans un Figma ou n'importe quoi, et donc tout sera utilisé de cette façon dans différents sites. Donc là, on est sur le groupe BPCE, donc c'est Banque Populaire, tout ça, c'est plein de banques, donc énormément de, c'est 23 marques, 800 développeurs, donc c'est un truc assez ambitieux parce que et différents langages aussi, etc. Donc jamais simple. Pour en avoir fait des design systems, c'est jamais simple de faire un truc qui soit utilisable sur toutes les technos, etc. Et donc, il explique en gros comment ils ont procédé, quelles sont les bonnes idées ou les moins bonnes idées, utiliser des tokens, ne pas nommer les éléments, mais utiliser du primary ou utiliser des couleurs propres, etc. Donc voilà, tout plein de trucs comme ça, des petits tips qui peuvent servir si jamais vous envisagez de faire un design system.
Après, il faut quand même une bonne connaissance design, ouais, et de structuration, de convention de nommage. C'est très, très, très particulier, et appeler les bonnes choses par leur, ouais, bon nom, c'est hyper important. Ça fait vraiment la différence en termes de système viable et que tout le monde peut utiliser. Sinon, en fait, on arrive toujours à faire un espèce de fork, et puis au bout du fork, bah en fait, on vient en fait encore un peu bouger le modèle, et à la fin, le truc, il ressemble plus à rien, et on a pété, ouais, ouais, justement le concept même du design system qui se veut justement avoir une homogénéité graphique, visuelle, à travers la marque, avec des conventions plus ou moins strictes, mais il faut que tout le monde puisse y trouver son bonheur, quoi.
Ouais, c'est réussir à faire un truc flex. Tu sais, il donne des exemples. Bah, ça, c'est assez logique, mais tu vois, quand tu utilises une couleur, la couleur principale, c'est primary. Pourquoi tu utilises ça? Parce que bah, il y a une banque, sa couleur principale, ça va être le bleu, et l'autre, ça va être le rouge. Donc, il suffit que tu changes juste la valeur de la couleur primary pour que ça adapte automatiquement, tu vois. Et ils ont aussi fait un système de tokens qui peuvent plus ou moins overrider ou rajouter. S'ils ont besoin d'un truc en plus, ils peuvent facilement rajouter un point machin pour rajouter une valeur, tout ça. Non, c'est pas mal en fait. C'est intéressant à lire. Franchement. Ouais.
Pour ceux qui doivent, enfin pour ceux qui sont qui travaillent sur des projets ambitieux avec des design, ouais, systems, je pense que son retour d'expérience pourrait être super super.
Mais les design systems, c'est vraiment un casse-tête, hein, franchement.
Ouais, non, c'est très 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 chaud, super chaud, super, ouais, chaud, super chaud. Et toujours dans cet univers CSS, Pinterest en fait a fait une petite vidéo comme quoi ils avaient dégagé beaucoup 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 de code en faisant que du CSS natif.
Ouais, c'est en partenariat avec Chrome. En gros, Pinterest, alors c'est pas un site que j'utilise, hein, mais ils ont beaucoup de carrousels. non, mais c'est plutôt une audience féminine.
mais t'as pas à être justifié, Patrick. Est-ce que tu utilises les sites internet de tous tes clients? Non.
Non.
Tu les as construits. Bon, bah voilà. Donc nous, en fait, nous, on est des créateurs, on construit des outils, des logiciels, des sites, tout ça. On utilise la techno, mais on n'est pas obligé de consommer ce qu'on construit, tu vois.
Oui, non, grave. Mais je te dis ça parce qu'en fait, il faut, tu peux même pas. Maintenant, il te faut un compte. Tu sais, c'est un peu comme Facebook, il faut que tu crées un compte pour pouvoir accéder au contenu. Enfin, okay. Donc c'est un peu relou. Mais en gros, okay. Pinterest, ils ont. J'ai utilisé à une époque Pinterest au début. Ils ont beaucoup de carrousels en fait. C'est un peu le principe du truc, quoi. Tu vois, c'est assez addictif les carrousels. Et ils avaient des carrousels qui s'étaient imbriqués au fil des années. En fait, ils avaient rajouté du code. Donc ça faisait un spaghetti de JS machin pour leur carrousel qui était finalement une pièce centrale de leur site. Et ils ont commencé à implémenter du carrousel natif CSS sur une partie de l'audience, en fait. Et puis, ils se sont rendus compte que ça marchait plutôt pas mal. Ça a réduit énormément le code, en fait, JS. Et du coup, bah, assez rapidement, ils sont passés pour tout le monde, en fait, en natif CSS, le carrousel. Alors, il y a toujours un petit peu de JS. Hein, pour ceux qui ont déjà fait des carrousels CSS, il y a toujours un peu de JS quand même. Mais par rapport à ce qui était avant, c'est vraiment tout petit. Donc voilà, ils expliquent un peu, en gros, que la transition s'est bien effectuée et qu'ils encouragent les gens à passer en CSS natif pour des carousels.
C'est pas nous qui allons dire le contraire, hein, de revenir aux fondamentaux et d'essayer de supprimer toutes les librairies quand tu peux le faire en natif. Bah, c'est mieux, c'est plus périn dans le temps, tu te fais pas injecter des dépendances malveillantes.
Ouais, c'est clair.
On a tous à y gagner en fait, à utiliser du code natif, quoi. Top, yes.
Voilà.
Parfait. Patrick, je te propose qu'on en reste là pour cet épisode. Un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Comme d'habitude, on vous remercie. Un petit pouce si vous le faites, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez la bonne parole et on remercie tous les sponsors qui nous subventionnent via le GitHub sponsor. Vous pouvez le faire directement et c'est super cool. On vous dit à bientôt. Ciao, ciao Patrick.
Ciao, à plus.
Ciao, ciao.